de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Président inaugure l'usine de l'huile alimentaire rouge dans le nord de Sumatra. Indonésie et la Nouvelle-Zélande préparent des plans pour la réunion du GMC. OIKN commence cette année à exercer des fonctions spéciales de gouvernement régional. Ministère du Commerce discutera de l'évaluation du règlement numéro 36 du ministère du Commerce concernant la réglementation des importations. Vice-ministre des Affaires étrangères encourage la coopération stratégique entre l'Indonésie et la Corée du Sud. Japon distribue une subvention de 706 millions de roupias aux établissements de santé à Kupang. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a inauguré jeudi 14 mars l'usine d'huile alimentaire rouge Pagar Merbau dans la région de Deli Serdang au nord de Sumatra. Cette usine a une capacité de traitement de 10 tonnes d'huile de palme brute CPO par jour et est capable de produire environ 7 tonnes d'huile par jour. Dans son discours, le président a espéré que l'usine pourrait apporter une valeur ajoutée aux producteurs de palmiers à huile qui possèdent environ 6,2 millions d'hectares de plantations de palmiers à huile dans toute l'Indonésie.
Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5
Notre pays, l'Indonésie, possède 15,3 millions d'hectares de plantations de palmiers à huile, dont 40,5% appartiennent à des agriculteurs. Cela signifie que 6,2 millions d'hectares appartiennent aux agriculteurs. Et nous voulons que cette valeur ajoutée soit dans le pays. Le président Joko Widodo a déclaré que le prix d'huile comestible rouge est moins cher que les autres huiles de cuisson sur le marché. Il estime donc que l'huile comestible rouge peut rivaliser sur le marché à des prix compétitifs. En dehors de cela, on dit que les nutriments contenus dans l'huile comestible rouge, tels que les vitamines A et E, ne sont pas perdus lorsqu'ils sont utilisés pour frire des aliments. Ainsi, le président a appelé le public à commencer à acheter et à essayer de consommer de l'huile comestible rouge de cette usine. Le président estime que cette usine contribue à soutenir l'industrie navale indonésienne. L'Indonésie et la Nouvelle-Zélande préparent la 11e réunion de la Commission ministérielle conjointe GMC qui se tiendra en mai 2024 à Wellington en Nouvelle-Zélande. C'est ce qu'a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir reçu le vice-premier ministre en tant que ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Winston Peters, à Jakarta, jeudi 14 mars. La 11e GMC se concentrera sur les efforts visant à encourager l'intensification des relations commerciales entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande, l'évolution des discussions sur l'accord de reconnaissance mutuelle ARM concernant les produits halal et la poudre, et la proposition de la Nouvelle-Zélande concernant le projet d'accord avec l'Agence d'administration de la garantie des produits halal, BPJPH, y compris la mise à jour de l'accord de coopération en matière d'éducation.
We discussed the plan to convene the 11th Joint Ministerial Commission in Wellington, as I mentioned, May this year.
Nous avons discuté du projet de convoquer la 11e Commission ministérielle conjointe, GMC, à Wellington, comme je l'ai mentionné, en mai de cette année. Nous travaillons actuellement sur la substance du GMC. Nous rappelons que lors de la dernière GMC en novembre 2021, les deux gouvernements se sont engagés à faire progresser la coopération économique ainsi que la coopération au développement. Il est donc important d'évaluer nos réalisations et d'actualiser le plan d'action POA pour orienter notre partenariat global vers ces engagements. Outre la question bilatérale, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté d'un certain nombre de questions régionales et mondiales à partir de l'implication de l'Indonésie et de la Nouvelle-Zélande dans le Pacifique, partageant les mêmes points de vue sur les défis communs tels que le changement climatique, l'atténuation des catastrophes et l'autonomisation des femmes, et discuté de la collaboration dans le contexte de l'ASEAN. Les deux ont également discuté de la situation en Palestine. Retno Marsudi a déclaré qu'étant donné le bilan de la Nouvelle-Zélande en matière de droits de l'homme, il est optimiste que la Nouvelle-Zélande aurait également des préoccupations similaires concernant la crise humanitaire en Palestine. Le chef de l'autorité de la capitale de Nusantara, OIKN, Bambang Susantono, lors de la réunion de coordination nationale pour la capitale de Nusantara à Jakarta, jeudi 14 mars, a déclaré que l'OIKN commencerait cette année à exercer sa fonction de gouvernement régional spécial pour la capitale Nusantara. Cité par Antara, Bambang a déclaré qu'avec ce statut, l'OIKN et les gouvernements régionaux peuvent combiner l'expertise, les ressources et l'expérience de divers secteurs pour créer des solutions holistiques et durables pour la mise en œuvre harmonieuse du gouvernement régional, spécifiquement pour l'IKN. Bambang espère que toutes les parties feront l'IKN une source de transformation indonésienne qui fournit un exemple d'harmonie et d'équilibre entre le développement économique, la préservation de l'environnement et la justice sociale. Le ministre du Commerce, Zulkifli Hasan, a déclaré que sa partie tiendrait immédiatement des discussions liées à l'évaluation du règlement numéro 36 de 2023 du ministre du Commerce concernant les politiques et la réglementation d'importation. Zulkifli à Jakarta a déclaré jeudi 14 mars que le ministère du Commerce avait entendu diverses plaintes concernant les restrictions à l'importation qui étaient considérées comme lourdes pour plusieurs groupes d'acteurs commerciaux. Zulkifli Hasan a également mentionné les règles concernant les restrictions sur les bagages pour les passagers étrangers, à savoir que les passagers ne sont autorisés à apporter que deux paires de chaque type d'objet. L'une des façons dont le règlement du ministère du Commerce entrera en vigueur sera en impact sur les activités d'importation via les bagages de passagers. Il existe 5 types de bagages passagers en nombre limité, à savoir les équipements électroniques, les sandales, les articles textiles, les sacs et les chaussures. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Pahala Nugraha Mansouri, a croisé diverses collaborations mutuellement bénéfiques entre l'Indonésie et la Corée du Sud. Il a transmis cet encouragement lors du deuxième dialogue stratégique entre le vice-ministre des Affaires étrangères d'Indonésie et le premier vice-ministre des Affaires étrangères de Corée du Sud, Kim Ong-kyun, à Séoul, mercredi 13 mars. Une déclaration écrite du ministère indonésien des Affaires étrangères, jeudi 14 mars, a déclaré que Les deux vice-ministres des Affaires étrangères ont convenu d'optimiser la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Corée, ou IKCEPA. Ils encouragent également la mise en œuvre et l'expansion de la coopération dans des secteurs stratégiques tels que le développement de l'écosystème de véhicules électriques et des batteries en Indonésie, la transition énergétique, les infrastructures, la santé, la coopération dans la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques, la main-d'œuvre et le secteur maritime. Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Kim Ong-kyun, a déclaré que sa partie soutenait l'adhésion de l'Indonésie à l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. L'ambassade du Japon en Indonésie a distribué des subventions d'un montant de 706,3 millions de rupiah dans le cadre du programme Subvention de base pour la sécurité humaine visant à améliorer les établissements de santé à Kupang dans l'est de Nusa Tenggara. La signature du contrat de subvention a été réalisée jeudi 14 mars entre l'ambassadeur du Japon en Indonésie, Masaki Yasushi, et les représentants des organisations bénéficiaires de subventions à l'ambassade du Japon à Jakarta. Cité par Antara dans un communiqué de l'ambassade du Japon à Jakarta, la subvention a été distribuée pour acheter des ambulances et des véhicules de service médical pour l'hôpital Saint-Carlos Borromeus à Kupang, Nusa Tenggara Est. La subvention vise également à aider les hôpitaux à moderniser les équipements qui commencent à tomber en panne et qui pourraient causer des problèmes dans le système de soins d'urgence, de transport et de télémédecine. En outre, des subventions sont accordées pour aider l'hôpital à améliorer ses services médicaux, notamment le transport d'urgence pour transporter les patients des régions éloignées qui en ont besoin. Le projet a été soumis à l'ambassade du Japon et a été élu après avoir passé par un processus de sélection. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'accueil diplomatique. Intitulé l'Indonésie et la Malaisie explorent l'accord de libre-échange ASEAN-Égypte. Les représentants du gouvernement indonésien et malaisien ont discuté des derniers développements de l'économie, du commerce, de l'industrie et des investissements en Égypte, ainsi que des efforts visant à augmenter le volume des exportations vers l'Égypte et des efforts conjoints pour explorer un accord de libre-échange ASEAN-Égypte. Lors de la réception d'une visite honoraire du délégué commercial de la Malaisie, Rafi M.D. Radzi et du directeur principal du marketing du bureau commercial de l'ambassade de Malaisie, Gada Fayek, à l'ambassade d'Indonésie au Caire dimanche, l'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie au Caire, M. Shahran Bakti, a souligné l'importance d'accroître la coopération de l'ASEAN avec l'Égypte dans le domaine du commerce et de l'investissement. Il a souligné l'importance d'être optimiste dans les relations commerciales avec l'Égypte, y compris effectuer une approche afin que l'utilisation des monnaies locales indonésiennes et malaisiennes dans les transactions avec l'Égypte puisse être évoquée lors des discussions à la Banque centrale d'Égypte. Pendant ce temps, le coordinateur des fonctions économiques de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Tenike, a déclaré que l'Indonésie avait élargi ses aides d'investissement en Égypte avec la présence d'une usine de nuit instantanée. L'Égypte a également investi en Indonésie avec la présence de la société de câbles LCVD et la société de Golden Café. Selon lui, les pays de l'ASEAN peuvent renforcer la coopération commerciale avec l'Égypte pour accéder aux marchés européens et africains. Tenike a expliqué les projets de l'Indonésie d'organiser un forum Indonésie-Afrique qui se tiendra en août 2024 et devrait fournir des résultats concrets pour améliorer les relations économiques et commerciales de l'Indonésie avec les pays africains, y compris l'Égypte. Le délégué commercial malaisien Rafi M.D. Razi a révélé que l'ouverture du bureau commercial malaisien au Caire pour couvrir les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Est vise à ouvrir de nouvelles percées sur le marché africain, notamment des opportunités d'entrée de produits malaisiens. Rafi a également déclaré que les produits malaisiens actuellement exportés vers l'Égypte comprennent l'huile de palme, l'huile végétale, le saben, les produits textiles, les produits électroniques et les produits en acier. Il a accueilli si l'Indonésie et la Malaisie explorent des premières discussions sur les efforts de coopération commerciale et industrielle entre l'ASEAN et l'Égypte dans le cadre d'un accord de libre-échange lors de la prochaine réunion du comité de l'ASEAN au Caire. Chers amis, c'était la rubrique L'accueil diplomatique de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence l'histoire aujourd'hui avec les événements du 15 mars 1983. Nyepi et Vesak sont devenus des fêtes nationales en Indonésie. Le jour de Nyepi est un jour saint pour les hindous balinais pour commémorer le nouvel an Saka. Lors de cette célébration, les hindous balinais font quatre choses appelées Chatur Brata Penyepian, à savoir ne pas manger ni boire, ne pas allumer les lumières, ne pas travailler et ne pas voyager. Pendant ce temps, Vesak est un jour saint bouddhiste pour commémorer la naissance, illumination et la mort de Siddhartha Gautama. Avant 1983, le jour de Nyepi était un jour férié uniquement pour les adeptes de l'hindouisme balinais. Vesak est une fête bouddhiste. Sur la base du décret présidentiel indonésien numéro 3 l'année 1983, établi par le deuxième président indonésien Suharto, le 19 janvier 1983, Nyepi et Vesak sont devenus pour la première fois des fêtes nationales indonésiennes le 15 mars 1983. Le 15 mars 2011, la guerre civile syrienne a éclaté. La guerre civile syrienne est un conflit armé multipartite avec une intervention internationale en Syrie. Cette guerre a commencé par des émeutes qui se sont intensifiées depuis les manifestations dans le monde arabe en 2011, exigeant la chute des gouvernements autoritaires et qui ont dégénéré en conflit armé après les manifestations contre le gouvernement du président syrien Bachar al-Assad. La guerre a commencé le 15 mars 2011 et se poursuit encore aujourd'hui. Jusqu'en 2024, la guerre implique le gouvernement syrien et des groupes rebelles en Syrie et auparavant des groupes djihadistes extrémistes tels que l'État islamique en Irak et la Syrie. Je termine l'histoire aujourd'hui avec les événements du 15 mars 2019, la fusillade de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le 15 mars 2019, deux fusillades de masse ont lieu à Christchurch, une ville de l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. Un homme nommé Breton Tarrant a ouvert le feu sur des fidèles qui accomplissaient la prière du vendredi à midi à la mosquée Al-Nour et au centre islamique de Linwood. En conséquence, 51 personnes sont mortes et 40 autres ont été blessées. Brenton a été condamné à prison à vie pour ses actes. La première ministre néo-zélandaise de l'époque, Jacinda Ardern, a qualifié cet événement de l'un des pires jours de Nouvelle-Zélande. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Baby, 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 I want you to know.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « Le ministère de l'Agriculture a budgétisé 7,74 millions de roupies pour augmenter la production de riz et de maïs ». Le ministère indonésien de l'Agriculture a préparé un budget de 7,74 millions de roupies sur le plafond du budget des recettes et des dépenses de l'État APBN 2024. Ce montant vise à augmenter la production de riz et de maïs, ce qui devrait permettre à l'Indonésie d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, lors d'une réunion de travail conjointe avec la Commission 4 de la Chambre des représentants ou DPR RI à Jakarta, mercredi 13 mars, cité par Antara. Le ministre Amran a expliqué que le récent trajet budgétaire visait à augmenter la productivité agricole et à ne pas modifier le plafond total et la composition du budget du ministère de l'Agriculture. Il a déclaré qu'il y avait un transfert du budget du ministère de l'Agriculture à l'Agence indonésienne de quarantaine d'un montant de 1,19 million de roupies, de sorte que le plafond total du ministère de l'Agriculture en 2024 serait de 13,56 millions de roupies. À cette occasion, le ministère de l'Agriculture a également confirmé l'ajout d'engrais subventionné de 4,7 millions de tonnes à 9,55 millions de tonnes. Ce plan a reçu l'approbation de toutes les parties, y compris les résultats d'une réunion restreinte du DPR et du ministère des Finances. Outre les engrais, Amran a confirmé que le gouvernement avait également approuvé un budget de dépenses supplémentaires, ABT, de 5,8 millions de roupies pour anticiper l'impact d'El Nino grâce à des programmes de solutions rapides tels que le pompage et l'ensemencement. Par ailleurs, le président de la Commission 4 DPR RI, Soudin, a déclaré qu'à travers la réunion de travail, sa partie souhaitait entendre une explication sur le programme de travail qui avait été préparé à chaque échelon 1 du ministère de l'Agriculture. C'est Juritar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter des listes culinaires typiques du Ramadan de diverses régions. Chaque région d'Indonésie a des aliments spéciaux qui sont généralement présents lors du sahur ou de la rupture du jeûne. Cette fois, nous fournissons des informations sur des menus les plus populaires dans diverses régions pendant le mois de Ramadan. L'un d'entre eux est célébré et la bouillie de Kanji Rumbi d'Aceh. Les mosquées de la province, surnommées Véranda de la Mecque, distribuent généralement de la bouillie Kanji Rumbi au public. Cette bouillie brunâtre a un fort arôme et un goût d'épices. C'est parce que la recette est influencée par la cuisine indienne. Riche en épices, cette bouillie est non seulement rassasiante, mais réchauffe également le corps. Si les habitants d'Aceh ont la bouillie Kanji Rumbi comme aliment typique du Ramadan, les habitants de Pontianak dans le Kalimantan Occidental ont un aliment typique du Ramadan appelé Sotong Pangkong. Ce plat utilise le calmar comme ingrédient principal. Les calmars ne sont pas frits mais grillés. Les calmars avaient d'abord été séchés au soleil jusqu'à ce qu'il soit sec. Avant de servir, la chair des calmars grillés sera pilée au marteau. Le but est de rendre la viande plus tendre et plus facile à mâcher. Le sotong pangkong est généralement consommé avec une sauce aux arachides ou préparé avec des assaisonnements sucrés et épicés. Un autre plat typique de Ramadan est le gâteau Asida des Moluques. Ce gâteau vient en réalité d'Arabe. Les habitants des Moluques ont commencé à reconnaître ce gâteau ressemblant à un dodol lorsque l'islam a commencé à exister dans l'est de l'Indonésie. Tout au long du mois de Ramadan, le gâteau Asida est souvent utilisé comme apératif du jeûne car il a un goût assez sucré. Ce gâteau sera très facile à trouver sur les bords des routes et dans les échoppes vendant divers aliments pour rompre le jeûne pendant le mois de Ramadan. Chers amis, c'était un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Meski tak jarang sedih meranda. à l'appui, Malacca devient pasti. Aku kan menatap masa depanku mengejar mimpi.
Of Indonesia.
When I'm up late and lonely, and I'm just down and hoping, know what I wanna hear from you. When the doubt pulls me under, and I need to recover, know what I wanna hear from you. Say to me the words that keep me going. Yeah, I know you know. Say, baby, say to me the words that made me him. I love the way they feel. You give me some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Say it again, 'cause I need it. Sounding so good, know you mean it.
When my conscience breaking and it's feeling efficient, know what I wanna hear from you. When the clouds fill the sky up, know what I can rely on. Know what I wanna hear from you.
Say, baby, say to me the words that keep me going. Yeah, I know you know. Say, baby, say to me words that make me heal. I love the way they feel. You give me some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Say it again, 'cause I need it. Sounding so good, know you mean it. Some of that sweet, sweet talk.
Yeah, I'm a feeling so stuck. Great luck, give me some of that sweet talk. I've been up all night getting so blue, but here comes you to the rescue. How did you do it? I'm a deadlock, gotta figure it out. I'ma be like Sherlock. Wait, I don't need to know, you don't need to show, and just keep them words flow.
Oh, love, oh, love, that sweet talk.
Give me some of that.
Oh, love, oh, love, that sweet talk. No one can get enough of that sweet talk,
yeah, you know me.
Oh, love, oh, love, that sweet talk.
You give me some of that sweet, sweet talk.
Sweet,
you
sweet
give
talk.
Me some of that sweet,
hey,
sweet talk. Say it again, cause I need it. It sounded so good that you need it. Some of that sweet, sweet talk.
Give it to me.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur dont le titre est Jakarta International Marathon 2024. Pour vous qui êtes fans de cours à pied, vous devez participer au Marathon International de Jakarta. C'est un événement sportif prestigieux qui rassemble des fans de course à pied de diverses régions du monde. Cet agenda d'envergure internationale sera mis en œuvre le 23 juin 2024. Cette activité est la deuxième fois qu'elle a lieu. En plus de célébrer le 497e anniversaire du DKI Jakarta, il s'agit également de continuer à améliorer la ville de Jakarta en tant que ville de tourisme sportif. On espère qu'en menant cette activité, elle aura un impact non seulement sur l'économie de Jakarta, mais aussi sur l'Indonésie. Le Marathon international de Jakarta 2024 sera chantré autour de la zone transversale nord-ouest de Monas et se terminera au stade principal Gelora Bung Karno le 23 juin 2024. Les catégories disputées sont le marathon avec 42,195 km, le semi-marathon avec 21,0975 km et le 10 km. Pendant ce temps, le prix total préparé lors de cet événement est d'environ 3 milliards rupiahs, y compris le prix principal d'une maison pour les participants qui réussissent à battre le record du marathon spécifiquement pour les citoyens indonésiens. Le parcours du marathon serpente devant certains des monuments emblématiques de Jakarta, offrant aux participants et aux spectateurs l'occasion d'admirer le patrimoine culturel et les merveilles architecturales de la ville. Des rues animées, des Sudirman et Tamrin à la beauté sereine du monument national ou Monas et de la majestueuse mosquée Istiqlal, les couleurs ont droit à des vues enchanteresses tout au long du parcours. C'est l'Indonésie en couleur.
Thank you.
work it out. You will be fine and you will survive. No matter what you have been through, you feel so lonely but you'll still be fine. Time will tell what you need the most. We're born quiet and we'll die alone. So bring yourself on the highest high. So all I need is faith in the truth. Breathe in the air, doing what I want to do. Feel alright to live without you.
Voice of Indonesia.
Yeah, come on. Why is the love? And me, my bro, Obozi, that was you.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Chers auditeurs, dans cette édition, je vous présente une chanson pop régionale de Maluku intitulée Huhate. La chanson Huhate est chantée par les Ambonais et les Moluques depuis des générations. Cette chanson a été écrite en Ambon, en langue malais. Les paroles de Huhate contiennent des conseils pour trouver un partenaire de vie. Lorsque vous recherchez le partenaire de vie, vous devez être prudent et ne pas être trop pressé. Un mauvais partenaire de vie est comparé dans cette chanson à la peau de durian. Les paroles de Huhate nous apprennent également à ne pas juger facilement quelqu'un uniquement sur son apparence ou ses paroles, mais à garder les yeux et les oreilles ouvertes pour ne pas avoir d'amis qui ressemblent à une peau de durian. Le ton joyeux et les paroles simples de Fouhate rendent cette chanson addictive pour les auditeurs. Bon, chers auditeurs, voici le groupe Alvarez qui chante la chanson Fouhate de Maluku. Bonne écoute!
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel. voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.